prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'évangile essentiel.
Passage de notre Bible, puisqu'elle est vraie, et nous la tenons affirmativement pour vraie, c'est une parole de véracité. Et je vous propose que nous revenions précisément à l'essentiel de l'évangile, ou l'évangile essentiel, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Alors vous allez reconnaître, parce que vous êtes familiarisé avec cette parole, mais c'est bien de la reprendre de temps à autre, en sachant que finalement, c'est elle qui donne la foi et c'est elle qui nous permet de saisir la grâce, le salut, les bénédictions de Dieu. Alors voilà, je rappelle, Luc chapitre 4, verset 16, et nous allons lire ce paragraphe qui nous rappelle tout simplement la primeur, si l'on peut s'exprimer ainsi, la primeur du message de Jésus parmi les hommes, dans les tout débuts de son appel, de l'exercice de son ministère. Voilà donc. Alors, verset 16. « Il se rendit à Nazareth, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute. » Vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne de laquelle leur ville, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alors voilà. Voilà cette parole de Jésus, l'envoyé de Dieu, pour annoncer. En substance, on l'a dit tout à l'heure, tout simplement l'essentiel, le principal, le fondamental de l'Évangile. Et vous avez vu comment les gens réagissent? Ils se sont mis en colère et ils ont voulu le tuer. Alors ça, c'est quand même une réaction assez étonnante parce que l'Évangile, d'abord, est une bonne nouvelle qui doit réjouir le cœur, qui doit apporter tant de choses que Dieu a à la disposition des hommes qui souffrent, qui sont aux prises avec toutes sortes de choses, y compris avec le mal, pour leur délivrance. Et voilà que la réaction, première réaction, c'est de vouloir le faire mourir. Ça les a mis en colère. Alors ça, c'est quand même assez étrange parce que ce qui devrait être bon devrait pouvoir être accepté et porter ses fruits. Mais dans la mesure où l'homme, l'humanité, dans sa généralité, ouvre ses oreilles et puis surtout son cœur parce que ça lui est destiné pour non seulement les choses, son bonheur présent, mais pour son bonheur éternel. Alors nous voyons que la réaction est d'une des réactions vraiment, et ce sera la première. Hein. Et quand on passera, quand on tourne les pages de l'Évangile, eh bien on s'apercevra que ça va être constant chez Jésus. Hein. Il va être poursuivi, il va être décrié, il va être là, honni, et vous savez comment ça se finit. Hein. Tout simplement parce qu'il va mourir, mais il va mourir non pas parce que c'est un accident, mais il va mourir dans un plan bien précis pour nous, précisément pour que les pauvres eh bien, puissent devenir riches, pour que eh bien, ceux qui ont le cœur brisé eh bien, soient véritablement, retrouvent un véritable équilibre moral, un équilibre sentimental, un équilibre affectif, enfin, tout ce qui peut toucher un cœur brisé, pour que les captifs soient réellement libérés et affranchis, pour que ceux qui sont aveugles eh bien, puissent voir clair, hein, tout simplement, et puis les opprimés, pouvoir vivre en homme libre. Alors, voilà tout cela, hein, ça s'est accompli de cette manière. Alors, si nous prenons par tout simplement le commencement, nous voyons que Jésus va sensibiliser ses auditeurs du moment en leur disant que ce n'est pas lui qui s'est envoyé, mais qu'il est envoyé par Dieu. Et ça, c'est une chose qui était importante à dire, parce qu'il y avait, avec la venue de ce personnage, ce prophète et ce prédicateur de Galilée, de cette bourgade de Nazareth, certainement pas mal de questions. Hein, déjà dès le début, dès l'abord. Et nous voyons que là, d'emblée, il va dire, sans aucune prétention, véritablement, parce qu'il est réellement l'envoyé, eh bien, il va affirmer que l'Esprit de Dieu d'Israël, oui, ce Dieu que les Israélites vénèrent depuis des siècles et des siècles, eh bien, voilà, c'est cet Esprit-là, c'est cet Esprit qui repose désormais sur lui, et qu'il a été oint, qu'il a été choisi, qu'il a été mis à part pour être ce que les Juifs ont toujours supplié, ont toujours demandé dans leurs prières, ont attendu, ont regardé immensément vers le ciel, intensément vers le ciel, c'est le Messie qu'il a. C'est celui dont il nous est parlé, l'envoyé de l'Éternel, du chapitre 53, du livre du prophète Ésaïe. Et il leur dira tout simplement, bien voilà, maintenant ça y est, je suis là et Dieu m'a oint. C'est-à-dire que je suis sous une onction, l'unique. L'unique onction de Dieu dans la tâche et la fonction, parce que ça n'a pas été dévolu à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est unique. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint, comme ça se faisait fréquemment pour les rois d'Israël, quand il y avait naturellement, eh bien, là, un roi qui accédait au trône, à la royauté. Alors, on l'oignait au nom de Dieu. Alors, il m'a oint pour, non pas pour régner, de la manière dont les hommes pensent, dont les hommes pourrait peut-être prétendre et s'attendre, mais il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors je ne sais pas, les rois quand ils arrivent au fait de leur sur leur trône, je pense que d'abord ils commencent par des bonnes nouvelles. Il leur dit, vous savez, avec moi, vous serez tranquille, il n'y a pas de problème, vous paierez vos impôts et vous verrez après. Un président de la République, il fait la même chose. Et puis après, on voit. Hein, mais c'est pour dire, tout simplement, que c'est pas du tout le même royaume, c'est pas du tout le même roi, c'est pas du tout le même contexte, ce sera pas du tout le même régime. Et la nouvelle, eh bien, c'est la suivante, c'est que les pauvres sont malheureux, c'est que les pauvres sont déshérités, c'est que les pauvres sont des souffrants de l'humanité. Alors la pauvreté, elle peut se décliner sous différents aspects. Ça peut être une pauvreté matérielle. Mais je pense que Jésus, et on le voit bien dans le Sermon sur la montagne, une autre pauvreté, pauvreté morale, pauvreté psychologique, certainement, assurément spirituelle. Pourtant, c'était le peuple d'Israël qui était normalement celui qui était le mieux nanti de connaître la volonté de Dieu. La pauvreté peut-être intellectuelle, je ne sais pas. Parce qu'on avait gardé les gens, quand je dis intellectuel, d'un intellectualisme spirituel. C'est-à-dire qu'on avait gardé les gens dans l'ignorance, en leur mettant des lois, en leur mettant des rudiments, toutes sortes de choses pour les écraser comme ça, on était sûr qu'ils ne bougeraient pas trop. Donc ça, c'est la pauvreté aussi, hein, quand on tient les gens dans l'obscurantisme, dans toutes sortes de choses où on ne veut pas leur dire réellement la vérité, pour qu'ils puissent vraiment eh bien, devenir riches, riches des valeurs, riches avec des repères, riches avec de l'amour dans leur cœur, parce que ça s'entretient et ça se cultive tout ça. Alors il leur dit, bien moi là, je suis venu pour ces gens-là. Ils sont pauvres et c'est une bonne nouvelle que je suis venu leur annoncer. Vous savez que depuis 21 siècles, ça continue cette bonne nouvelle. Hein. Ça ne s'est pas arrêté. Hein. Ça dure. Hein. Ce qui nous confirme que Jésus est vraiment loin et qu'il a vraiment l'Esprit de Dieu. et que lorsque nous prenons sa parole, elle est sous l'onction de Dieu, et que ceux qui se servent de sa parole pour l'annoncer aux autres, eh bien il y a une onction, non pas sur l'homme lui-même, restons modestes, mais sur la parole, parce que ça fait toujours son effet. Alors, il m'a oint. Donc, il m'a sélectionné, j'ai été mis à part, pourrait dire Jésus. Et puis, il m'a envoyé. Après cette onction, il y a un envoi, il y a une mission, et cela pour guérir. Alors, les malades, ils sont de différentes sortes. Il y a les malades physiques, on en connaît. Il y a les malades moraux, oui, les malades mentaux. Il y a les malades, les gens qui sont malades spirituellement, parce qu'ils sont dans une telle confusion dans leur âme, dans leur esprit, ils ne savent plus du tout où ils en sont, et ils sont particulièrement eh bien, tourmentés. Alors, il est venu donc envoyer pour guérir spécialement ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, avant le corps, avant tout le reste dans la vie d'un homme, par-delà sa corporalité, il y a quelque chose qui est d'une grande sensibilité. Et ça ne se voit pas hein, comme cela. Hein. Mais des infirmes, il y en a beaucoup. Des extropiés du cœur, il y en a beaucoup. Des gens qui ont été transpercés, laminés, labourés, hein, qui ont été trahis d'une manière ou d'une autre et qui souffrent de leur cœur, au fond de leur cœur, il y en a beaucoup. Et ce sont les cœurs brisés. Et Jésus donc dit, mais moi je suis venu pour leur apporter la guérison. Alors il n'y a pas d'une opération à caractère cardiaque, hein, vous avez bien compris. Mais ce sont des paroles. Et vous savez qu'avec une parole on peut tuer, avec une parole on peut guérir. Hein? D'ailleurs, si on s'en réfère à ce beau message du psaume 107, me semble-t-il, il nous est dit que l'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Et là, nous sommes en plein dedans. Hein. Nous sommes tout à fait dans la réalisation de cette prophétie, de cette prédiction du psaume 107. Alors, oint, écoutez bien, envoyé, Jésus est venu. Ensuite, pour proclamer. Proclamer, il y a comme une dimension de crier, de dire avec courage, de dire avec ferveur, de dire avec hardiesse. Ce n'est pas quelque chose qui est secret, mais c'est quelque chose qui doit être connu partout. Proclamer, annoncer aux captifs la délivrance. Alors les captifs, ce n'est pas ceux qu'on pourrait s'imaginer à première vue. Des captifs, il y en a, vous savez, dans le monde. Les prisons regorgent de captifs, donc de prisonniers. Il y a des gens, au moment où je suis en train de vous parler, dans certains pays dont on parle beaucoup actuellement, qui sont torturés dans des stades, qui sont torturés dans des usines, on en parlait mercredi soir, hein, parce que bon, ce sont des dissidents politiques. C'est affreux, c'est terrible. Mais le monde a toujours connu ça. Ce sont des captifs dans nos prisons, ici, et là, eh bien, il y a aussi des captifs. Ils y sont, il y a des raisons, et on ne rentre pas en considération de tout cela. Hein, mais une chose qui est certaine, ce sont des gens qui sont privés de liberté. Mais il y a d'autres captifs également. Il y a des gens qui se disent libres et qui sont sous l'atavisme du péché, d'une passion, d'une addiction, de quelque chose qui les domine. Et ils peuvent dire, moi je suis libre, regardez, je suis un homme libre. Et quand on voit qu'ils recourent et ils se précipitent vers telle substance hein, gazeuse, liquide ou fumante et tout ce que vous voudrez, ils ne sont pas libres. Il y a des choses qui les retiennent et on peut dire qu'ils sont libres, mais on s'aperçoit que finalement, vous leur enlevez ça, ils ne peuvent plus vivre. Ils sont dans une tension, ils sont dans une nervosité, dans une agressivité, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Et pourtant, ils vous diront qu'ils sont libres. Eh bien, c'est précisément pour ces prétendus gens libres que Jésus est venu leur dire, mais non, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes esclaves de quelque chose qui vous domine. Vous êtes esclaves de quelque chose qui vous rend captif. Et ce n'est peut-être pas ce genre de produit dont nous avons parlé il y a un instant, mais ça peut être une captivité à cause d'une peur, de l'angoisse, un état de dépression qui nous rend captif et dont nous avons énormément de mal à nous extraire. Et ça, c'est aussi à proclamer, à le dire. La liberté est possible. Les portes des prisons, même si ce sont des portes invisibles, même s'il y a des barreaux invisibles, eh bien, ce sont des barreaux quand même. Et pour sortir de ces prisons-là, de ces geôles-là, il faut naturellement, il n'y en a aucun autre que celui qui est venu, qui nous parle, c'est-à-dire Jésus. Et lui, il brise les chaînes, il réduit les liens. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Alors nous sommes dans une société où beaucoup de gens portent des lunettes. C'est un bien. Hein, commencez par moi. Mais toujours est-il que le recouvrement de la vie a un caractère tout à fait particulier. Parce que beaucoup de gens disent « je vois ». Vous savez, hein, je sais, je connais, j'ai de la science, j'ai de l'expérience. Ça touche des domaines, quelquefois, de prétention humaine. Et c'est vrai que notre monde est un monde quand même très avancé et évolué dans ce domaine. On voit bien, on sait, hein, on sait beaucoup de choses. Et il y a une chose peut-être que Jésus peut dire et pourrait souligner à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Oui, tu sais tout cela, tu connais tout cela, mais moi je veux te dire que tu es aveugle. Parce que la véritable vue, c'est une autre chose. Ce n'est pas la vue de nos yeux, de notre vision que nous avons là, que nous connaissons bien dans ce sens, que l'on appelle tout simplement la vision, mais c'est une vue intérieure. C'est l'apôtre Paul qui dira ces paroles admirables quand il écrira aux Éphésiens, me semble-t-il. Il dit « Mais je prie pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Donc, il y a bien des yeux au cœur. Et ce sont des yeux qui nous font découvrir des valeurs, qui nous font découvrir des principes, qui nous font découvrir des fondements, des réalités, et qui sont indispensables, finalement, à la vie morale et à la vie spirituelle. Oui, dans un monde où, eh bien, beaucoup de gens disent « mais je vois clair », eh bien, Jésus peut nous dire, comme dans le livre de l'Apocalypse, « tu dis que tu vois, mais moi je te dis que tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu, tu t'imagines être riche, mais tu n'es rien du tout et tu n'as rien du tout. Alors si tu viens et que tu mets sur tes yeux mon collyre, parce que c'est inscrit ainsi dans Apocalypse chapitre 3, si tu prends mon collyre, eh bien alors à ce moment-là tu vas avoir une nouvelle vision, une nouvelle vue. Vous savez que l'apôtre Paul était passé par là, hein. Je le dis au passage, mais l'apôtre Paul était un homme qui prétendait mordicus quand il s'appelait Saul de Tarse qu'il voyait clair. Il était pharisien, il était zélé, il était là un homme en poupe. Il avait le vent en poupe, on dit, hein. Voilà, c'est ça. Et jusqu'au jour, sur le chemin de Damas, il est tombé. Et la première chose qui l'a frappé, c'est qu'il est devenu aveugle. Mais il est devenu aveugle pour pouvoir ensuite être guéri de sa cécité. Et là, quand il a ouvert les yeux, vous savez qu'il est devenu l'apôtre Paul après, hein, à partir de ce moment-là. Hein, et il a vu les choses différentes. Et avant, il faisait étalage de sa foi, de sa religion, de toute cette croyance en Dieu d'israélite zélé et tout ce que voudrait. Vous savez comment il écrira après aux Philippiens? Il dira « mais j'ai regardé ces choses et je les regarde aujourd'hui parce que mes yeux se sont ouverts, je les regarde comme de la boue ». C'est quelque chose, hein? Il n'avait pas renié son péché, mais il avait compris que de toute façon son péché, il était derrière lui et que maintenant, parce que le Seigneur lui avait ouvert les yeux, eh bien, il voyait. C'est comme Lydie quand elle écoute le discours de Paul dans la ville de Philippe. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit que Dieu lui ouvrit son cœur, alors les yeux de son cœur, on peut l'entendre de cette manière, pour qu'elle comprenne ce que disait Paul, le message de l'Évangile. Donc il y a bien un moment où alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, nous touchons encore à des choses essentielles, parce que cette vision-là nous donne de prendre conscience de notre péché, de notre perdition, donc de nous amener à la repentance, de nous amener à faire un choix parce que nous savons maintenant dans quelle direction nous allons, nos yeux se sont ouverts, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et puis une nouvelle naissance, la vie n'est plus du tout la même. Vous savez, quand on appartient à Jésus, la vie est belle. Ouais, la vie est belle. Moi je le dis parce que j'espère que vous êtes d'accord avec moi, hein, parce que ça c'est quelque chose, d'ailleurs qui nous le fait exprimer lorsque nous sommes réunis ensemble, nous chantons des cantiques qui nous montrent que finalement, eh bien, nous voulons exprimer notre joie. Parce que nous savons ce que c'est que la joie maintenant. Nous savons ce que c'est que la paix. Il y a des moments difficiles. Il y a quelquefois des gros nuages sur nos vies. Mais il y a toujours la lumière qui est auprès de nous. Et ça, ça demeure. Alors, aux aveugles, le recouvrement de la vue, c'est une proposition pour tous les hommes. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie comme tu vois. Que je puisse aimer comme tu aimes. Que je puisse comprendre comme tu veux que je comprenne. Et que je sois l'homme ou la femme que tu désires. Que je devienne que je sois maintenant. Pour renvoyer libres les opprimés. Alors là, nous touchons à quelque chose de particulier, parce que le mot oppression, c'est vrai, peut avoir un rapport avec ce que nous avons dit des captifs et de leur délivrance il y a un instant, mais je lui donnerai une explication peut-être un beaucoup plus spirituelle. Renvoyer libres les opprimés. dans un monde qui ne paraît pas, mais qui est un monde qui est tout imprégné de la domination, non seulement du mal, mais également de celui qui s'appelle le malin et qui est l'instigateur du mal, et que les hommes mordicus refusent de reconnaître comme l'auteur du mal, de la destruction et de la mort. Et à travers le biais, et sa domination s'exerce à travers, eh bien, tout ce que nous pouvons appeler les sciences occultes, la magie, l'astrologie, et toutes ces choses qui appartiennent au monde de l'occulte, au monde des ténèbres. C'est une marée noire. Une marée noire, vous savez ce que c'est, hein, ça nous est arrivé plusieurs fois sur nos côtes. Hein, on ne peut pas y mettre les pieds, hein. On fuit cela. Mais les hommes, il nous est dit, l'apôtre Jean nous dit que le monde entier gît dans le malin, il n'en est même plus conscient. Il n'en ressent même plus l'odeur et il n'en voit même plus la couleur, c'est noir. Et quand Jésus nous dit « mais je suis venu renvoyer libres les opprimés », ce sont tous ceux, comme nous verrons dans l'Évangile, cette femme qui était courbée depuis 18 ans et que Satan, parce que c'est écrit, hein, tenait depuis 18 ans dans la maladie. Ou cette fille de la Cananéenne qui était tourmentée par un démon. Et puis le cas extrême, c'est celui du Gadarénien qui va trouver sa délivrance, les opprimés. Les opprimés qui souffrent par des choses étranges, inexplicables, incontrôlables, inimaginables, et dont on ne peut pas mettre véritablement, lorsque on ne connaît pas et que nos yeux n'ont pas été ouverts, on ne peut pas mettre véritablement un diagnostic. On sait que la personne est souffrante. L'enfant épileptique, je pense à lui. Et où il est vraiment dénoncé, derrière ces choses, je ne veux pas voir le diable partout, mais il est dénoncé d'une manière très claire, qu'il y avait une main invisible pour faire mourir, pour ruiner, pour finalement eh bien, dévaster la vie, à la fois de la personne et puis de son entourage. C'est terrible. Alors Jésus dit, mais moi je suis venu pour ces gens-là. Parce que la véritable délivrance, elle ne se fait pas par des moyens humains. Elle ne se fait pas par ceci ou cela, mais elle se fait par une véritable délivrance en mon nom. Parce que Jésus est monté à la croix, il est mort à la croix du calvaire, et il nous est dit que c'est là où il a vaincu l'adversaire. Ouais. Et il nous le rappellera comme une clé de victoire et de délivrance. Tout ce que vous lirez sur la terre, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il avait dit ça avant de mourir sur la croix. Maintenant, c'est fait. Et tout ce que vous délirez sur la terre en mon nom, eh bien, ça sera délié aussi. Et ça, c'est une puissance pour les opprimés. Et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Alors, approximativement, vous savez que cette année de grâce a eu des prolongations, parce que ça fait 2000, je ne vais pas vous dire le chiffre exact, hein, je ne vais pas prendre le calendrier, le nôtre, mais 2000 et quelques voilà, années. Hein. C'est le temps de la grâce, c'est l'ère de la grâce, c'est le temps de l'Évangile, c'est le temps où Jésus est bien là, frappe à la porte des cœurs. Où il parle aux hommes, il les sollicite. Il récupère et il sollicite à revenir dans la maison le fils prodigue. Il passe au milieu des malades, pour tous ceux qui l'appellent, comme Bartimée, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il s'occupe de tous ceux qui sont dans la détresse d'une façon ou d'une autre. C'est une année de grâce. Vous avez remarqué ? Dieu m'a oint. Il m'a envoyé. Je suis venu pour proclamer et puis donner aussi eh bien, la liberté à ceux qui sont opprimés. Et je suis venu publier. Là, l'Évangile s'ouvre et l'Évangile commence. C'est une année de grâce qui n'est pas encore finie. Alors, une fois ceci dit, le texte nous rapporte qu'il roula le livre et le remit au serviteur et il s'assit. C'était la coutume hein, chez les Juifs. Un visiteur qui passait, enfin, ce n'était pas un visiteur inconnu en tous les cas, mais de prendre et le lire, une participation libre, tout simplement, et de lire. Et c'était le livre du prophète Ésaïe, nous l'avons vu tout à l'heure. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, et il devait y avoir du monde, avaient les regards sur lui. On avait souvent vu Jésus, avant son ministère, venir à la synagogue de Nazareth. C'était quelque chose de courant, je suppose. Mais là, c'était une lecture qu'un autre aurait pu faire, qu'un rabbin de passage aurait pu faire avec l'éloquence, finalement, de la fonction. C'était quelqu'un qu'il connaissait bien. Il prend un simple texte. Il ne le commande pas, vous avez remarqué. Il ne prend que le texte, il le lit. Et là, l'attention des gens est fixée sur lui. Comme s'il y avait, ben oui, effectivement, on l'a dit, l'Esprit de Dieu était sur lui. Parce qu'on peut lire la Bible où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, d'une manière tout à fait bon, littéral et puis littéraire, pas tout ce que vous voudrez, hein, livresque. Mais quand il y a l'onction du Saint-Esprit, quand il y a la marque du Seigneur, alors ça, je peux vous dire que tout s'illumine à ce moment-là. Les simples paroles que Jésus a lues, sans commentaire, il n'a pas fait une prédication, voilà que les gens fixent les yeux sur lui, se disent « Mais hey, c'est curieux, on le connaît bien !» Mais comment peut-il dire? Parce que je crois qu'il devait y avoir, dans l'intonation, dans la prononciation, et ces mots devenaient des mots, c'était peut-être des mots qui semblaient morts depuis des siècles et des siècles, mais ces mots devenaient des mots de feu, et qui apportaient la vie, et qui brûlaient. Vous savez, quand Jésus a terminé le sermon sur la montagne, vous avez vu la dernière phrase dans Matthieu, ce qui est dit? Il nous est dit que les gens reconnaissaient, étaient admiratifs de ce que Jésus avait dit dans cet enseignement fleuve, qui est le sermon sur la montagne, parce qu'ils ne prêchaient pas comme leurs scribes. Il y avait quelque chose de plus. Et l'évangile, c'est ça, c'est une onction du Saint-Esprit. Enfin, pour nous, en tous les cas, il y a l'onction du Saint-Esprit sur la parole de Dieu. Alors tous ceux, donc, avaient les regards sur lui. Et comme il s'est aperçu qu'on le regardait, alors il a commencé à leur dire cette parole. Alors là, c'était quand même peut-être... Il n'y avait rien de provocateur, mais c'était véritablement la bonne nouvelle est annoncée. Écoutez bien. Il va dire quelques mots. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il la connaissait, cette parole. Les gens qui fréquentaient la synagogue depuis des années. Mais il va ajouter quelque chose. Il va dire aujourd'hui. Dans le fait de toute l'histoire, c'était l'aujourd'hui de Dieu. Israël attendait la consolation. Il avait une espérance dans le cœur. Il était là dans ce soupir, après quelque chose d'autre que cette religion monotone et routinière, qui était le judaïsme qui avait perdu son feu et qui avait perdu beaucoup de choses, puisqu'on avait rajouté toutes sortes d'ingrédients dedans, humains. Mais là, il va dire « aujourd'hui ». Vous savez que ce mot « aujourd'hui » est important, hein, parce que c'est le présent. Quand on le dit, nous aussi, c'est « aujourd'hui ». Aujourd'hui, c'est ceci. Aujourd'hui, c'est là. C'est pas demain. Hier, c'était hier, naturellement. Mais aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, eh bien, est accomplie. Vous venez de l'entendre. Vous l'avez tant entendue, cette parole. Mais aujourd'hui, vous l'entendez de ma bouche. Et derrière cette parole, il y a l'assentiment de Dieu. Il y a le sceau de Dieu. Ça change tout. Alors, à ce moment-là, dans un premier mouvement, tous lui rendaient témoignage. Il y a eu comme un mouvement bien sympathique, Jésus de Nazareth. Il est revenu nous voir. Il est revenu partager, et bien là, dans la synagogue, aujourd'hui, le jour du sabbat. Dans un premier mouvement, voilà comme cela. Et vous savez que c'est très souvent comme ça. Les gens, quand ils entendent l'évangile pour la première fois, il y a quelque chose qui... Parce que ce sont des créatures de Dieu, et Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et dans un premier temps, les gens sont ravis. Vous savez, c'est l'histoire du semeur, là. Ça pousse très vite à un moment donné. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait de rocher, hein. Et... C'était spontané. Il nous est simplement rappelé que ils lui rendaient témoignage, mais à côté, dès qu'on commence à réfléchir, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est très bien encore, hein, pas de problème. Ils se disent, mais il y a quelque chose. Oh, on va bientôt avoir à Nazareth un nouveau rabbin. Peut-être qu'ils l'avaient pensé, hein. Oui, mais ce n'était pas tout à fait ça, hein. Parce qu'il y avait la grâce. Et c'est ça ce qui fait la différence. Ce n'était pas la loi qui tue, qui condamne, qui expédie je ne sais où les gens dans le tourment et de toutes sortes de choses. C'était la grâce. Et il parlait avec des paroles de grâce. Ces paroles de l'évangile que nous avons trouvées là dans Ésaïe, que Jésus ramène, redonne, eh bien c'est des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais après le raisonnement humain est là. Hein. Ça c'est terrible parce que ça arrive à tout le monde. Ils vont se dire mais c'est bien ça, hein. Très bien, il parle très bien. Mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Dans un autre texte, dans Marc, au chapitre 6, il nous est dit, mais ouais, fils de Joseph, Marie, c'est sa mère. Et puis ses frères, ils s'appellent. Alors vous avez, hein, il y a toute l'énumération. Et ses sœurs sont au milieu de nous. Hein. Alors là, on commence à redescendre au niveau le plus bas, enfin au niveau humain, et ça tue tout le reste, naturellement. Parce que ce n'est plus la foi, c'est le raisonnement. C'est la raison humaine. N'est-ce pas le fils de Joseph? Alors Jésus leur dit, parce qu'il les connaît, il sait à peu près ce qu'ils pensent. Et il va leur dire, mais très bien, je suis au milieu de vous, je suis votre votre ami, je suis votre concitoyen, bien sûr. Hein, mais vous m'avez connu déjà tout petit, naturellement. Alors il dit, mais sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Eh bien, tu parles bien, Jésus. Mais médecin, que tu te guéris toi-même. Parce que tu es en train de vouloir nous guérir. Puisque tu parles de guérison, mais tu commences par toi. Or, Jésus n'était pas malade. Voilà. Parce qu'il commençait peut-être à penser qu'il était malade dans sa tête et de vouloir jouer un rôle qui n'était pas le sien et de se prendre pour je ne sais quoi. Je ne sais qui, pardon. Peut-être le Messie, après tout. Il l'était. Alors, médecin, guéris-toi toi-même. Et il rajoute ceci. Eh bien, fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ce qu'il voulait dire, ces détracteurs qui commencent à réagir, qui commencent à raisonner, je ne sais pas si c'était les jeunes ou les anciens ou les religieux, ou je ne sais pas, peu importe. Hein. Mais là, Jésus va rentrer véritablement dans une controverse. Enfin, on va le provoquer pour rentrer dans le mettre en contradiction. D'abord, on va discuter. Et il va lui dire, bon, c'est très bien, tu parles bien, mais maintenant, il nous faut des actes. Alors, on aimerait bien, parce que nous, à Nazareth, on a entendu dire que quand tu es passé à Capernaum, tu as guéri un lépreux. Tu as guéri la belle-mère d'un homme qui est avec toi et qui s'appelle Pierre. Vous vous souvenez de ça? Tu as fait ceci, tu as fait cela, etc., etc., etc. Tu as même peut-être... Ah non, c'était après ça. Oui, il me semble. Hein. Ça, c'est le début, hein, je crois. Il faudrait que je regarde, parce que là, c'est les évangiles synoptiques, il faudrait voir la chronologie des fêtes. Mais peu importe, on peut toujours le mettre dedans, parce qu'ils font référence à Capernaum, c'est que Jésus certainement avait déjà fait quelque chose. Alors, ce que Jésus se faisait entendre, c'est qu'il se disait, ben d'accord, tu parles bien, tu es au milieu de nous, mais nous on aimerait bien voir maintenant les fêtes que tu as accomplies, c'est-à-dire les miracles. Parce qu'à ce moment-là, si on voit les miracles, on croira. Or, ils sont complètement dans l'erreur. Ce n'est pas le miracle qui donne la foi, c'est la parole qui donne la foi et qui conduit au miracle. Et c'est ça la grande différence. Et le raisonnement humain, traditionnel, rationnel et tout ce que vous voudrez, naturel, c'est quand je verrai, je croirai. Or, Jésus nous dit, notamment à Marthe, eh bien, si tu crois, tu verras. Donc c'est exactement l'inverse. Et c'est pour ça qu'ils font référence à Capernaum. Et en disant, ben, tu fais des miracles et on verra ça. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous en savez quelque chose dans votre propre famille, non? C'est pas facile, hein, de dire à papa ou à maman, ou de dire à nos enfants, ou de dire à nos ascendants ou à nos descendants, ben vous savez, moi j'ai rencontré Jésus, il a fait des choses merveilleuses et j'aimerais bien que vous partagiez aussi ma joie et le bonheur qui est le mien. Eh ben vous allez voir comment vous allez être reçu. Enfin, il y en a, ça marche. Mais c'est pas toujours évident. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie et Jésus le savait. Et là, il va faire référence à des faits d'histoire, avant de terminer. Il dira ceci, « Moi, je vous le dis en vérité. » Et quand Jésus ponctue en vérité, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Puisqu'il se met sur le plan de la raison, du raisonnement, du savoir humain, il y avait quand même des faits historiques dans l'histoire d'Israël, qui étaient connus de tout Israélite pieux. C'était le fait que Jésus va leur dire, « Ah, bien sûr. » Vous voulez des preuves. Vous êtes en train de discuter sur ma messianité, sur l'autorité que je peux avoir, et vous voulez savoir que si mes actes s'accordent avec mes paroles et vice-versa. Eh bien, moi, je vais vous dire qu'aucun prophète, donc, n'est bien reçu. Et il ajoute, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. On connaît l'histoire. Le grand prophète du miracle, il s'appelait Élie. Et à un moment donné, en raison de toutes les dérives du péché, de toutes les abominations d'Israël qui s'étaient tournées vers l'occultisme et vers la magie et vers des faux dieux, eh bien, il en était arrivé à un paroxysme qui s'était auto-jugé et auto-condamné eux-mêmes. Et Dieu leur avait dit, écoutez, hein, si un jour vous m'abandonnez, hein, ben vous saurez de qui ça vient. Ça ne viendra pas de moi, mais ça viendra de vous. Mais moi, il y a une chose que je pourrais faire, c'est que je couperais la pluie du ciel. Et ça voulait dire tout simplement, eh bien, s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de pain. Il n'y aura pas de pain, il y aura la famine. Et ceci et cela. Parce que c'est quand même Dieu qui est quand même le maître. On peut toujours dire qu'il n'existe pas, on peut toujours brandir le poignet, le poing en disant, mais je t'aime pas ou je te hais, et puis voilà, je jure après ton nom. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand même, qui c'est qui tient le robinet de la vie? Et de tout ce qui va avec la vie, c'est quand même lui. Hein. Et là, ils ont fait la cruelle expérience que le prophète a été appelé à prier en disant, bien maintenant, Dieu lui dit, tu vas prier, et il n'y aura plus d'eau pendant 3 ans et 6 mois. Ça fait pas mal, hein. Là, on a eu ce qu'il fallait, hein, cette année. Hein. Mais toujours est-il qu'en Israël, c'est une autre histoire, hein, parce que c'est quand même très sec. Et c'est ce qui s'est passé, et pendant 3 ans et demi, ça a été terrible. Et le prophète était quand même au milieu de la nation, et il a dû leur dire, eh bien écoutez, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça, retournez vers Dieu, humiliez-vous, demandez-lui pardon et revenez vers lui. C'est pas les faux dieux que vous devez adorer, mais c'est votre Dieu, le Dieu d'Israël. Personne n'a voulu entendre, personne n'a voulu croire. Ben, la famine a continué. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, écoute, hein, ils sont roides de coups. Hein. Et vous savez, quand il est dit que hein, celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup, c'est biblique, hein, hein, sera brisé promptement et sans remède. Ben, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés par une famine terrible et les gens mouraient, les enfants mouraient, les vieillards mouraient, tout le monde mourait. Et Élie a reçu le mandat de Dieu en disant, bien écoute, hein, puisqu'il n'y a plus rien à faire dans le pays qui normalement est le pays de la foi, mais c'est le pays de l'incrédulité, eh bien moi je vais te sauver, Élie, tu vas aller maintenant dans un pays étranger. Tu vas aller sur une terre qui n'est pas la terre d'Israël, où ce sont que des païens. Et là, il y a une femme que nous connaissons sous le nom de la veuve de Sarepta. Et là, cette femme, elle a cru, elle. Alors que tous les autres ne croyaient pas, elle, elle a cru au message du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une bénédiction dans sa maison. Alors que tout le monde mourait autour, elle a eu de l'huile, elle a eu de la farine dans le pot. Et elle a survécu parce qu'elle a cru. Les Juifs, quand Jésus est venu sur cette terre, ils n'ont pas cru. C'était l'enrichissement des nations et du monde. C'est pour ça que nous croyons aujourd'hui. Alors nous prions pour le retour d'Israël à la foi, hein, parce qu'ils en ont besoin, hein, ça c'est sûr. Alors, cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles en Israël, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et ça marchait. Le gros problème des hommes, c'est l'incrédulité. C'est cet entêtement à dire « mais je ne veux pas croire » ou « je ne peux pas croire que ce soit possible ». La bonne nouvelle, c'est de nous dire, mais croyez, et vous verrez. Et vous verrez combien Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux. On est pauvre, pauvre en quelque chose, on est malade en quelque chose, ou de quelque chose, on est aveugle, on est peut-être en prison, on est opprimé, mais faisons confiance au Seigneur, et c'est lui qui va véritablement eh bien, nous montrer qu'il est Dieu, et qu'il veut devenir notre Dieu, et notre Père, notre Sauveur. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, on connaît aussi hein, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Des lépreux, il y en avait quand même pas mal, hein, du temps d'Élisée. Il y en avait partout, dans toutes les villes, des lépreux. Mais personne ne croyait dans le ministère prophétique et le ministère miraculeux de ce grand homme qui s'appelait Élisée. Et là, il était envoyé auprès d'un général syrien qui d'abord s'est commencé à se mettre en colère, mais après, avoir passé sa colère, il a dit « j'aurais peut-être intérêt de croire ». Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est humilié parce qu'il avait deux lèpres. Il avait la lèpre de la maladie, vous savez, qui fait des... Hein, et qui vous réduit à rien du tout. Et puis il y avait une autre lèpre qui était dans son cœur, c'était l'orgueil. Et quand il a voulu traiter la première, il était guéri de la deuxième. Et il a cru, et il a été guéri. Si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère. J'espère que vous n'allez pas me lyncher à la fin du message, après avoir entendu ce que vous avez entendu. Mais c'est ce qui est arrivé à Jésus, en tous les cas. Ouais. Ils se sont mis en colère. Ils se sont dit, mais c'est pas possible qu'ils disent des choses comme ça. Vous savez pourquoi ils se sont mis en colère? Parce que profondément, ça les dérangeait d'avoir entendu la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et il nous est dit dans Thessaloniciens que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire au mensonge. Parce que la foi s'allie avec la vérité et l'incrédulité avec le mensonge. Et ce qui est curieux, c'est que les incrédules croient au mensonge. C'est ça le problème. Ils vont croire au mensonge, à des choses, à des fadaises, à des histoires qui ne tiennent pas debout. Ils vont dire, mais c'est ça la vérité. Alors ça, c'est quand même un coup de maître de l'adversaire. Du diable, quand même. Alors, ils ont été remplis de colère dans la synagogue. Normalement, la synagogue, on ne se met pas en colère. Dans une église, on ne se met pas en colère. Lorsqu'ils entendirent ces choses et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Vous voyez, hein, ils l'ont bien traité. Hein. Et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Attendez, il y aura une autre colline. Elle viendra plus tard, 3 ans après. Ça s'appellera Golgotha. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais là, il voulait déjà faire les choses. Hein. Le précipiter. Afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Vous savez, Jésus a raison de nous dire que tant que la mission n'est pas finie, pas un cheveu pour ceux qui en restent, pour ceux qui en ont encore, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'était le fait que Jésus, véritablement, eh bien, croyait dans les paroles, dans la sûreté, dans la sécurité, dans la protection de son Père céleste. Eh bien, c'est la même chose. Parce que là, c'est le début de son ministère. Et il va y avoir 3 ans de cheminement, de pérégrination, de ville en ville, de village en village, de touchant toutes les catégories, des hommes, des femmes, les religieux, des publicains, des gens de mauvaise vie, des prostituées, et tout le monde va entendre le message. Parce qu'il faut que ça soit entendu. Et ce message, eh bien, il perdure. C'est encore un message pour aujourd'hui. C'est un message pour notre monde. C'est un message pour notre temps. C'est un message pour notre pays. C'est un message pour notre ville. Pour chacun d'entre nous. Je vous ai dit, hein, c'est l'évangile essentiel. Et à travers cela, il y en a tout. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. En tous les cas, nous voulons suivre Jésus. Et nous voulons prendre ses paroles comme les paroles de Dieu et de lui dire, mais merci Seigneur, parce que je crois, moi qui ai besoin de ceci ou de cela, mais je sais que c'est toi et toi seul qui peux me donner ta grâce. Et en prime, oh, je dis que c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau, c'est le couronnement. C'est que par-delà toutes les contingences, toutes les prison, toutes les souffrances, toutes les chaînes et les liens dont les hommes sont chargés, il y a quelque chose qui vient et qui est vraiment le cadeau royal de Dieu, c'est le salut. Ouais, c'est le salut de Dieu. Sauvé pour l'éternité, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Approchons-nous de Dieu et l'apôtre nous dit, il s'approchera de vous. Alors on va le faire à travers cette simple prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier parce que tu es merveilleux, toi. Mais ta parole, elle est merveilleuse parce que c'est toi. Ta parole, c'est toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire de dissociation en pensant, Seigneur, que si nous disons que c'est formidable, c'est beau, c'est merveilleux, eh bien, nous ne voulons pas redescendre à l'étage inférieur qui nous fait penser qu'il y a peut-être un raisonnement qui fait ceci, qui fait cela, et qui est en train de détruire et de saper notre foi. Nous voulons rester vraiment sur tes paroles. Et si tu nous dis, Seigneur, que tu es venu pour sauver les hommes, c'est que tu les sauves et que tu nous sauves, que tu me sauves. Si tu as dit que tu es là pour guérir, c'est que tu nous guéris. Tu nous guéris complètement. Alors nous le croyons. Pour le pardon, c'est pareil. Pour la consolation de nos cœurs, c'est pareil. Tout est semblable, Seigneur, parce que ta parole, elle est entière. Et comme l'apôtre Paul pouvait le dire hier, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pas la peine de chercher ailleurs, c'est en toi et je m'approche de toi. Parce qu'en m'approchant de toi, par ta grâce, je sais que tu t'approches très près de moi. Et tu me donnes ce dont j'ai besoin, selon les désirs de mon cœur, selon les aspirations que tu mets par ton Saint-Esprit au plus profond de moi-même. Et je te bénis, Seigneur, parce que je reçois en cet instant. Amen. Amen.